Créé il y a un peu plus d'un an, le collectif Comminges Palestine Solidarité se mobilise régulièrement par des rassemblements, des courriers aux élus, des projections au cinéma Le Régent à Saint-Gaudens en soutien à Gaza et à toute la Palestine pour demander un cessez-le-feu. Patrick Francesconi, bonjour.
Bonjour.
Marlène Francesconi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux bénévoles à ce collectif. Qui est à l'origine de ce collectif dont je rappelle le nom, Comminges Palestine Solidarité?
Donc c'est d'abord un collectif, donc c'est une initiative citoyenne qui a été portée par des membres, à titre individuel, des membres d'organisations politiques. Donc on peut les citer, il y a les écologistes, il y a LFI, NPA, l'EPC, REV, UCL, l'ANC, il y a des organisations syndicales, la CGT, FSU, Solidaires, il y a des mouvements associatifs, ATTAC, le mouvement de la paix, les soulèvements de la terre, Amnesty International, la LDH, et il ne faut pas oublier l'UJFP.
Qui a été créé, en fait, le collectif a été créé par une personne de l'UJFP qui s'appelle Aude. Et c'est vraiment elle qui a mis sur pied ce collectif. Voilà.
Et donc, on s'est mobilisé, on a créé ce collectif et on s'est mobilisé dès le 15 novembre 2023 sur le secteur de Saint-Gaudens. Donc, on a commencé par faire des rassemblements toutes les semaines, tous les mercredis à 17h30, devant la sous-préfecture de Saint-Gaudens. Et donc, on a commencé par faire des rassemblements pour essayer de mobiliser un peu la population. Puis après, petit à petit, pour continuer à mobiliser les gens, on a organisé des projections de films, des tractages, de l'affichage, pour essayer d'informer. Parce que très rapidement, dans le cadre de ce conflit, on a eu le sentiment que tout démarrait le 7 octobre. Or, on est loin de là et on a, nous, avec Marlène, eu la possibilité d'aller en Palestine il y a une vingtaine d'années. Et déjà, la situation que l'on a rencontrée et auxquelles on a dû faire face, n'était pas du tout la situation où les gens vivaient en paix, les Israéliens, les Palestiniens, c'est pas du tout ça. Donc je pense que l'importance, c'était dans ce collectif de montrer que tout n'avait pas démarré le 7 octobre.
Mais je crois que c'est important de mettre l'accent sur ce auquel on assiste dans les médias mainstream, très souvent, quasiment tout le temps même, les médias présentent ce qui s'est passé à Gaza comme si ça avait démarré le 7 octobre. On entend tout le temps la guerre entre Israël et le Hamas qui a commencé le 7 octobre. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc du coup, ça invisibilise tout ce qui s'est passé depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Et donc ça fait plus de 75 ans déjà, et la situation ne fait que s'aggraver. Comme dit Patrick, quand on y est allé il y a 22 ans, c'était déjà une catastrophe. Le camp de réfugiés de Jenin avait déjà été détruit complètement par l'armée israélienne. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait il y a à peu près un mois, ils ont fait exactement la même chose que ce qu'ils avaient fait il y a 22 ans lors de la deuxième intifada.
Alors, vous aviez pris des photos à l'époque.
Oui.
On pourrait presque malheureusement faire un parallèle à la situation actuelle.
Ah oui, 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 absolument. Bon, je pense que ce qui s'est passé à Gaza, c'est quand même différent. Mais c'est parce que Gaza a été entièrement détruit. Hein. C'est 70% des habitations qui ont été détruites. Mais entre autres, pas que les habitations, les hôpitaux, les universités, enfin, absolument toutes les infrastructures de Gaza ont été détruites. Mais ce qui s'est passé en Cisjordanie il y a un peu plus de 20 ans, lors de la deuxième intifada, c'était déjà le cas. Lorsque nous y sommes allés, les colonies existaient, il y en avait déjà beaucoup. Ce n'était pas une caravane posée en haut d'une colline, comme le dit... comment s'appelle-t-il, Bernard-Henri Lévy, qui a affirmé ça quand même à la télévision il n'y a pas très longtemps. c'est pas une caravane ou deux caravanes ou trois tentes, hein, c'est vraiment des villes entières avec des universités, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans une relativement grosse ville. Voilà. Et pour se déplacer, par exemple, c'était déjà très très compliqué, puisque les Palestiniens ne pouvaient pas emprunter les routes qu'ils avaient eux-mêmes construites quand même. C'était réservé essentiellement aux colons. Les Palestiniens ne pouvaient que passer à travers champs quand ils avaient besoin d'aller à leur travail, d'aller à la ville, à Jenin la plus proche. Enfin, nous étions dans le secteur de Jenin. Hein. Et puis après, il y a eu la construction du mur à la fin des... Enfin, non, ça a dû commencer très vite à ce moment-là, parce que nous y sommes retournés en 84. Et là, on a vu la construction du mur. C'était une horreur, vraiment une horreur. Nous sommes allés à Bethléem. On n'y croyait pas, hein, franchement. On avait notre fille avec nous, une de nos filles. Hein, et on a une photo qu'on a prise près du mur. Il y avait un berger palestinien qui rentrait ses brebis. Il fallait qu'il passe près du mur, donc qu'il passe le checkpoint israélien. On l'enquiquinait forcément. Et ce mur, c'était un mur qui faisait, je sais pas, 5 ou 6 mètres de haut. Et donc, les agriculteurs, par exemple, en Palestine, s'ils voulaient aller dans leur champ pour cultiver leurs oliviers, etc., on les laissait passer ou pas. Il fallait qu'ils passent un contrôle israélien, systématiquement. Et comme c'était l'arbitraire, eh bien, si les soldats israéliens avaient décidé que c'était bon ce jour-là, s'ils étaient de bonne humeur, on le laissait passer. Sinon, on le renvoyait chez lui, avec son troupeau. Et ça se passait comme ça. Donc aujourd'hui, c'est encore pire.
Ah, vous dites dans le document que vous avez remis récemment au sous-préfet de Saint-Gaudens que 60% des victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. 307 travailleurs humanitaires et 404 familles ont perdu entre 5 et 30 membres de leur famille. Ce sont des chiffres que vous m'avez donnés du mois de décembre 2024.
Oui. Oui, je pense que depuis ces chiffres ont augmenté. Bon, le bilan, il a été le bilan humain qui est fait par les autorités du Hamas, mais toutes les études ont révélé que dans ce cadre de conflit, les chiffres qui sont donnés sont sûrement inférieurs à la réalité. Il y a encore tous les gens qui sont sous les décombres. Tous les gens qui ont été blessés et qui mourront après, ceux-là ne sont pas comptabilisés dans les victimes du conflit. Et dernièrement, les études du Lancet ont montré qu'on pouvait s'attendre à 100 000 morts, voire plus. Donc juste 100 000 morts sur 2 500 000 Gazaouis, c'est 4% de la population. Si on ramène ça en France, on n'est pas loin de 3 millions de morts. Donc il faut bien voir l'importance humaine, sachant qu'après, effectivement, ce sont les enfants, les femmes qui ont été tuées. Donc après, ça c'est le quotidien des Gazaouis. Mais il faut bien voir tout ce qui s'est passé, destruction, parce que je pense que détruire les enfants, détruire la population féminine, c'est aussi détruire la possibilité de la population, on va dire entre guillemets, de se reproduire. Mm-hmm. Parce que bon, il y a une grosse population quand même, au niveau palestinien. Il y a une lutte au niveau de la démographie entre Palestine et Israéliens, de manière, on a toujours l'impression que les Israéliens ont peur, on va pas dire d'une submersion palestinienne, mais on n'en est pas loin. Après, il y a tout le côté destruction matérielle, donc, c'est-à-dire tout ce qui est destruction, les hôpitaux, bon, on en a entendu parler, les écoles, les cimetières, les lieux de culte. Tous les lieux de culte ont été bombardés, rasés, en plus des habitations civiles. Ce n'est pas des infrastructures militaires, ce sont que que des infrastructures civiles. Et donc tout ça, c'est une destruction perpétrée de manière à radier toute une population de son territoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Palestine, c'est aussi le territoire des Palestiniens.
Combien de Palestiniens déplacés ?
Les Palestiniens de Gaza, si on parle des Palestiniens de Gaza, ça fait 15 mois qu'ils se promènent. Ils sont passés du nord au sud, au centre. Donc c'est évidemment à chaque fois l'armée israélienne qui passait des messages. Alors souvent c'était des messages par haut-parleur ou des messages par petits tracts qu'ils balançaient depuis leurs avions ou leurs hélicos ou leurs drones, je ne sais pas exactement. Où on leur demandait de partir sur des zones soi-disant sécurisées. Mettons les habitants de Gaza Nord, de Gaza Ville, on leur demandait de partir au centre, que là, ils seraient en sécurité. Et puis le lendemain, les Israéliens bombardaient le centre de Gaza. Et après, on leur demandait de partir. Alors, ils ont terminé finalement au bord de mer, au sud de Gaza. Et ils vivaient sur les plages, dans des tentes... Et après, on leur demandait de repartir un peu plus haut ou un peu plus à l'est. Il faut savoir que Gaza, c'est un tout petit territoire qui doit faire, j'ai plus en mémoire le nombre de kilomètres. Je crois que c'est une douzaine de kilomètres de long, sur 4 ou 5 kilomètres de large. Je crois que je ne me trompe pas beaucoup. C'est ça Patrick. Et qui sont complètement enfermés. Donc quand les Israéliens parlent de zones sécurisées, on se moque du monde quand même. Parce qu'il n'y a jamais eu de zone sécurisée à Gaza. La preuve, c'est qu'ils ont quand même été pilonnés. Ils ont pris des bombes d'une tonne sur la figure. Et ça s'est passé comme ça. Alors après, bon, ils sont remontés. Et là, dernièrement, quand il y a eu le cessez-le-feu, les Gazaouis sont remontés sur le nord de Gaza, sur Gazaville, parce que c'est là que la majorité de la population vivait. Donc là, maintenant, ils n'ont pas retrouvé leur maison, bien évidemment. Donc ils campent dans les ruines de leur maison. Ils ont des tentes, pour ceux qui sont les mieux lotis, on va dire. Mais ils ne veulent pas quitter leur territoire, parce qu'ils savent très bien que s'ils quittent leur territoire, ils ne reviendront jamais. C'est ce qui s'est passé en 1948 avec la Nakba, quand les Israéliens ont fait partir 800 000 Palestiniens, alors que c'était pas du tout prévu dans le plan de partage de l'ONU, tout ça. Ces Palestiniens, maintenant, ils sont dans les camps de réfugiés. Une partie est venue justement à Gaza. À Gaza, il faut savoir que sur les 200 000 habitants, je crois, à l'origine, il y a aujourd'hui 2 500 000 personnes. Mais ce ne sont quasiment que des réfugiés et des descendants de réfugiés de la Nakba. Donc ce sont des personnes réfugiées en permanence. Et si Israël ne veut plus que l'UNRWA intervienne, c'est simplement pour que les Palestiniens, les Gazaouis, enfin l'ensemble des Palestiniens, ne fassent plus partie, n'aient plus le statut de réfugiés. C'est ça qu'il faut voir. S'ils perdent le statut de réfugiés, ils ne pourront plus jamais revenir sur leur terre. Et c'est un élément très très important que malheureusement beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc les Gazaouis ne partiront pas. Je pense qu'ils préfèrent mourir sur place que de partir. Et les Palestiniens de Cisjordanie, c'est pareil. Là, Israël a pilonné les camps de Jenin, de Tul Karem, entre autres. Ils ont fait partir 40 000 personnes, du camp de réfugiés, mais l'armée israélienne occupe les camps. Ils ont tout rasé, absolument tout. Ils ont détruit l'eau, l'électricité, les maisons. Ils ont absolument tout détruit au bulldozer.
Oui, sachant que le camp de Jenin, les rues du camp sont très étroites.
Oui.
Donc ils font... avant de faire rentrer les chars, ils font rentrer les bulldozers. Ils passent les bulldozers dans les ruelles, donc tous les bâtiments s'écroulent et les chars arrivent après. Ils finissent après avec... ils arrachent toutes les conduites d'eau, d'assainissement quand il y en a. Et donc, ils rendent invivable tout un secteur qui comptait énormément de population.
Je le précise tout à l'heure, vous avez rencontré fin décembre le sous-préfet de Saint-Gaudens pour lui remettre un document et lui présenter le collectif Comminges-Palestine-Solidarité. Que demandez-vous au gouvernement français ?
Dès le départ, dans nos revendications, ça a été, on a demandé le cessez-le-feu. Un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent. Parce que bon. Ensuite, on a demandé un retrait immédiat de l'armée israélienne du Liban. Parce qu'après, bon, il faut voir qu'il y a en même temps d'autres conflits qui se passent un peu à la périphérie d'Israël. Et la fin de l'occupation et de la colonisation qui se pratique justement en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Donc, au départ, nos revendications, c'était ça, la libération des otages, la libération des prisonniers politiques. Et ensuite, bon, il faut bien, il faut bien rappeler quand même que les événements du 7 octobre, nous avons condamné ces événements qui se sont passés le 7 octobre. Bon, ça, il n'y a aucun problème par rapport à une action de cette violence. Pour moi, l'action, elle est vraiment, c'est une action terroriste. Il n'y a aucun scrupule là-dessus. Mais après, les revendications sont venues au fil du temps. Donc, il y a eu les livraisons d'armes. Il y a eu des livraisons d'armes françaises ou occidentales. Parce qu'après, on a européennes, puisque bon, on ne va pas dissocier nos revendications par rapport à la France des revendications par rapport aux autres pays européens. Mais bon, il faut voir qu'il existe quand même des accords économiques entre l'Europe, Israël. Et bon, nous, on souhaiterait que ces accords soient dénoncés et remis en cause. Il y a des accords de coopération entre les universités. Et notamment, nous, on a, au sein du collectif, on a fortement participé à la campagne BDS.
Oui.
Tu veux en parler, Marlène ?
Que veut dire BDS ?
Alors, BDS, c'est une campagne qui a été mise sur pied par des Palestiniens, qui veut dire boycott, désinvestissement, sanctions. Et donc, ça consiste, enfin, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Il y a eu aussi un boycott des produits sud-africains à ce moment-là. Et donc là, l'objectif, c'est de cibler des entreprises qui, enfin, nous, à notre niveau, au niveau, on va dire, Saint-Gaudens. On cible surtout les entreprises qui ont favorisé la colonisation, qui ont financé les colonies. Donc on a ciblé essentiellement au départ Carrefour, hein, qui au départ du après 7 octobre envoyait des repas aux soldats israéliens. Il y a également un boycott sur des banques, notamment la BNP, donc qui finance des constructions dans les colonies. Après, il y a aussi le boycott de produits israéliens, produits dans les colonies, mais parce que c'est jamais indiqué sur les produits que vous allez acheter sur le marché, par exemple, si vous achetez des dattes, des oranges, des clémentines et autres produits comme ça. C'est rare, enfin, c'est un peu plus indiqué, si on est un peu plus vigilant. Mais c'est souvent indiqué provenance Israël. Mais on ne sait pas si ce sont des produits qui sont produits vraiment en Israël, dans le pays Israël, ou si ce sont des articles qui sont produits dans les colonies, donc sur lesquels Israël a mis la main, en fait. Et donc, ils privent forcément les agriculteurs palestiniens de ce qui leur revient. Donc, après, qu'est-ce qu'on a au niveau du boycott ? On a surtout ciblé ça, quand même. Hein.
Oui.
Donc, je pense que j'oublie rien.
Peu de personnes savent que Gaza était, pendant des millénaires, un carrefour culturel exceptionnel.
Oui, parce que bon, il y a énormément de Il y a énormément de richesses, de tout ce qui est culturel. Il y a Gaza, mais il y a aussi toute la Cisjordanie, tout Jérusalem aussi, dans lequel on a une très grande richesse. Jérusalem, on ne peut ne pas parler de tous les sites religieux qu'il y a, de toutes les religions. Hein.
Oui.
Donc nous, on a eu la chance, c'est vrai, d'aller à Jérusalem, à l'église de la Nativité, à Bethléem.
Oui, on avait d'ailleurs été hébergés dans un couvent à Jérusalem, parce que c'est assez compliqué.
À la maison d'Abraham.
À la maison d'Abraham. C'est assez compliqué de passer la frontière, passer les contrôles israéliens à l'aéroport de Tel Aviv. On est interrogé à n'en plus finir, on nous demande qu'est-ce qu'on vient faire et où on va, etc. Enfin, on nous met en garde sur le terrorisme. Enfin bon, passons. Et donc on savait qu'en allant à la maison d'Abraham, qui est donc catholique, hein, ils ont l'habitude de recevoir des gens comme nous, hein, qui vont un peu en mission aussi. Et donc on pouvait dire ça à l'aéroport, nous allons à la maison d'Abraham, ça passait, on ne nous embêtait pas, on ne nous traitait pas de... À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les missions civiles, hein. C'était les CCIPP. Et c'était en fait des bénévoles qui venaient un peu de tous les pays. Ils organisaient des missions pour intervenir en Cisjordanie et à Gaza. Et d'ailleurs, on a justement Aude qui a un peu créé le collectif avec son mari Michel. Ils ont fait plusieurs missions civiles, notamment à Gaza, où ils avaient fait aboutir un projet... De puits, je crois.
Le château d'eau,
voilà, c'est ça.
Qui a été détruit.
Et voilà, et ce château d'eau, il a été détruit au tout début du conflit à Gaza. Donc voilà, je voulais juste faire une aparté sur les missions civiles, ça n'existe plus trop maintenant.
Ensuite, tout ce qui est destruction de la richesse et du patrimoine de Gaza, c'est une manière aussi d'effacer un peuple, d'effacer avec sa culture. Parce que en plus, il y a, comme on disait, par rapport aux religions, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas oublier que au début, l'argument de la colonisation, c'est quand même de coloniser une terre sans peuple. Or, un peuple, il y en avait un, mais je pense que là, on va essayer de le faire disparaître.
Quoi. C'est une colonisation de peuplement.
Hein. Oui.
C'est vraiment ça. Le terme qui convient.
Oui. Et parce que quand on cible le patrimoine culturel, c'est pas comme ça par hasard. Il faut effacer toute l'existence d'un peuple. Aujourd'hui, il y a des fouilles qui sont faites par des archéologues israéliens. Quels que soient les résultats, ces fouilles montreront que, effectivement, c'est les Israéliens qui étaient propriétaires de cette terre. Bon, tout ça, ça a été démenti sans aucun problème. Lorsqu'on a été, non pas à Gaza, mais à Jéricho, qui est un site magnifique. La moitié des statues, des mosaïques ont été démontées et amenées dans le musée Rockefeller d'Israël, de manière à montrer que toute la culture est israélienne. Or, c'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas, et d'autant que il faut rappeler qu'il y a à peu près, ça commence à peu près il y a une vingtaine d'années, un peu plus, il y a eu un mouvement qui s'est créé en Israël, c'était des historiens, ce qui s'appelait les nouveaux historiens, et ces nouveaux historiens ont bien mis l'accent là-dessus, sur ce qui se passait justement pour déposséder le peuple palestinien de son histoire. Il y a des quantités de livres qui existent là-dessus. Je pense à Benny Morris, je ne les ai pas en tête là, mais il y a des livres très très intéressants justement sur l'appropriation par Israël de tout le patrimoine palestinien. C'est d'ailleurs pour ça qu'Israël a comme objectif de détruire ce genre de choses, notamment à Gaza, où ils ont pilonné, pas en priorité, mais presque quand même, les mosquées, tout ce qui faisait partie de...
Il y avait tous les sites, y compris le port de Gaza.
Oui,
le port de Gaza. Y compris le port de Gaza.
L'aéroport de Gaza.
Tous les lieux où étaient stockées les archives, donc de manière à effacer, non pas un peuple, mais sa culture, ses origines.
Quelles sont les prochaines actions du collectif Comminges Palestine Solidarité ? Vous réunissez régulièrement devant la sous-préfecture de Saint-Gaudens ?
Oui, c'est ça.
Toutes les semaines ?
Voilà, toutes les semaines, je pense. Donc on se réunit toutes les semaines, tous les mercredis à 17h30. Et après,
vous réunissez de temps en temps aussi au cinéma Le Régent à Saint-Gaudens ?
Voilà, tous les 15 jours à peu près, on fait une réunion pour faire le point, pour essayer de mettre en place des nouvelles actions. Donc parmi les actions, on a projeté quelques films en partenariat avec Le Régent. Donc Thomas nous aide bien, c'est lui qui anime un petit peu la soirée. On fait aussi, lors de la projection de ces films, on a souvent un réalisateur qui vient. Donc on a fait... dernièrement, on a passé un film avec Elias Ivan. Bon, oui. C'est quand même lui qui est venu, qui est un réalisateur...
Connu, reconnu.
Et bon...
Israélien.
Oui, israélien. Donc, avec une vision... tous les Israéliens n'ont pas la même vision. Lui, il a une vision quand même autre, plus proche de la nôtre. Donc après, on a fait... On a surtout, dans un souci d'information un peu de la population, parce que faut rappeler quand même que ce conflit, on entend beaucoup, moi j'y comprends rien, c'est compliqué, c'est un conflit de religion, non, c'est pas du tout ça. Donc au cours de ces réunions, ou de ces soirées débats, on informe aussi les gens de c'est pas du tout ça. On est dans une colonisation, dans un système d'apartheid, c'est-à-dire que les Palestiniens ne vivent pas avec les mêmes droits que les Israéliens. Il faut savoir qu'en Israël, on a aussi des Arabes israéliens, c'est-à-dire ce sont des Palestiniens d'origine qui, en 48, sont restés sur Israël, le territoire d'Israël. Mais au niveau des droits, ils n'ont pas les mêmes droits que les Israéliens. Les Palestiniens qui sont en Palestine, eux, ils n'ont aucun droit. Il faut savoir que lorsque vous voulez un document administratif d'état civil, il faut toujours en référer à l'autorité israélienne. C'est eux qui délivrent passeport, carte d'identité, il y a cet apartheid que l'on doit un peu dénoncer et surtout informer les gens. Donc je pense qu'au niveau de nos réunions du mercredi, on informe les gens de ce qui se passe, puisque on a quand même par le biais des nouvelles, puisqu'on a des odes à un contact là-bas.
À Gaza.
Et régulièrement, on est en lien, en contact, soit par mail, souvent par mail, parce que le téléphone, c'est un peu compliqué, mais souvent par mail, ils nous donnent des nouvelles. Après, il faut, tant que j'y pense, il faut penser à... Il y a un nombre de journalistes impressionnants qui ont été tués, particulièrement ciblés. Donc, il reste... quelques journalistes locaux, des journalistes palestiniens. Donc, parmi ces journalistes, il y a Rami Abou Jamous, qui a fait un livre et qui publie toutes les semaines une chronique de ce qui se passe.
Oui, qui intervient aussi sur France 24 maintenant. C'est un journaliste qui a réussi, enfin, c'est pas lui qui a réussi, je pense qu'il parle français, il a fait des études en France, donc Il est souvent contacté, justement, notamment par France 24, pour intervenir, même sur France Info, je crois qu'on l'a entendu de temps en temps. Hein. Ouais.
Et donc après, comme ça, on arrive à avoir des informations, ce qui permet d'informer un peu la population sur vraiment la réalité, ce qui se passe, et non pas rester dans une représentation médiatique un peu trop orientée. Quoi, hein,
quand même. Il faut quand même rappeler une chose importante, hein, je pense qu'elle est très importante, c'est que personne ne pouvait rentrer à Gaza depuis 15 mois. Israël avait bouclé complètement. Enfin, déjà, ils sont bouclés. Hein, ils sont quand même dans une prison. On dit souvent une prison à ciel ouvert. Mais là, depuis le 7 octobre, les journalistes n'avaient pas le droit de rentrer à Gaza. Donc, les seules infos, les seules images qu'on a pu avoir, c'était via les journalistes palestiniens, qui sont journalistes. Hein, ils sont vraiment, ce sont vraiment des journalistes, ce ne sont pas des Pékins comme vous et moi. Voilà, ils sont journalistes, ils sont formés. Mais ils sont sans doute de seconde zone, puisque au niveau des collectifs de journalistes européens, en tout cas européens, personne n'a bougé. Hein, personne n'a jamais dénoncé les 500 et quelques morts journalistes palestiniens qui ont été tués, mis à bout portant, hein, alors qu'ils portent quand même un gilet pare-balles où c'est indiqué « presse ». Donc ils sont visibles. Donc quand Israël dit qu'ils ciblent, effectivement ils ciblent ce qu'ils veulent. Voilà.
Marlène et Patrick Francesconi, merci. Je rappelle que vous êtes tous les deux bénévoles au collectif Comminges Palestine Solidarité.
Merci à vous.
Merci à vous.